Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'avait pas pris le temps depuis un petit moment déjà de s'éloigner des salles obscures pour s'intéresser à ce qui se passe sur le petit écran. C'est devenu une banalité que de dire qu'on y trouve largement de quoi contenter son amour des scénarios écrits au cordeau, de la mise en scène redoutablement précise et de la direction d'acteurs aux petits oignons, mais c'est tellement évident justement qu'on oublierait presque de le souligner, par exemple en mettant en valeur une série comme Tchernobyl dont on va causer là tout de suite avec un trio de critiques thermonucléaires. Daniel Andrieff, salut Daniel.
Zdarova.
Julie Lebaron, salut Jalu. Salut Julie. Salut Julie. J'ai été perturbé par l'accent russe.
Moi
de
aussi,
Daniel.
Moi
salut
aussi.
Julie.
Salut Thomas.
Et David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Tu n'as pas répondu en espagnol, je suis extrêmement déçu. C'est nos ciné, épisode 195, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
J'ai lu le baron, c'est pas mal en même temps.
Ouais,
c'est assez joli, ouais. Ouais, c'est pas mal.
Tchernobyl, non, pas super compliqué.
Désolé, Julie. Quoi? Tchernobyl, donc, comme son nom l'indique, nous raconte l'histoire bien réelle de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en avril 86 dans la centrale du même nom, dans l'Ukraine actuelle, qui à l'époque et pour quelques années encore appartenait à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Traumatisme mondial absolu, ici vu au plus près du cataclysme, puisque la série nous met dans les pas à la fois du personnel de la centrale, des équipes de secours, de nettoyage et de l'appareil politique soviétique bien décidé à imposer un silence des plus larges autour de l'accident.
Well, the good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world.
Je précise que le son qu'on entend, c'est pas une alarme, c'est pas de la post-prod, c'est le serrurier qui vient travailler chez Binge Audio pendant qu'on enregistre cette émission. Voilà, vous savez tout des coulisses. C'est peut-être un hélico qui évacue, mais on m'a dit dans l'oreillette que c'était le serrurier.
Moi, j'ai des acouphènes depuis que j'ai vu la série.
D'accord, donc du coup, c'est transparent pour toi. Cette mini-série, donc Tchernobyl, 5 épisodes, on la doit à HBO et surtout à Craig Mazin, son créateur et showrunner, personnage intrigant qu'on connaissait surtout comme scénariste de tout un tas de films assez dispensables, comme Scary Movie 3, Scary Movie 4 et The Hangover 2 et 3. Les moins bons Scary Movie, évidemment, les deux premiers étant des chefs-d'œuvre. Comme quoi, les gens sont surprenants. Au casting de Tchernobyl, on trouve notamment Jared Harris, anciennement de Mad Men, Stellan Skarsgård, Emily Watson ou encore Jesse Buckley. Votre avis sur Tchernobyl, chers amis? Julie, tiens.
Mon avis sur Tchernobyl.
Ben oui, c'est pour ça que je vous ai invité dans cette émission.
Je remplace Julien Dupuis.
Exactement.
Parce que
ton nom ressemble à celui de Julien, c'est pour ça.
moi, j'ai beaucoup aimé Tchernobyl.
Ouais. Mais
c'est pas vraiment un avis très original. C'est un avis assez consensuel parce que j'ai l'impression que c'est une série qui a fait l'unanimité et qui est d'ailleurs devenue la série la mieux notée.
Sur Rotten Tomatoes.
C'est ça, et à raison, je pense, parce que Craig Mazin, moi, il me semblait que c'était Mazin.
Moi, j'ai lu Mazin.
Enfin bref, Craig Mazin ou Mazin, en tout cas, un très très bon travail.
Mazin, tu as bien raison. J'ai vu qu'il s'appelle Mazin, parce que ça fait comme Marzin, c'est un nom de famille assez courant en Bretagne.
Déjà, je suis très contente qu'un type comme ça, dont le parcours peut donner espoir aux plus médiocres des auteurs, montre qu'on peut, avec beaucoup, beaucoup de recherches, parce qu'il a été assez transparent sur tout son processus de recherche documentaire, sur ses lectures de témoignages, il a même partagé les bouquins, les films dont
il s'est inspiré. Il y a notamment un livre de témoignages qui est au cœur de l'adaptation, je crois.
Oui, c'est ça, notamment La Supplication. De Svetlana Alexievitch,
je crois que c'est ça.
Très bon livre qui recense des témoignages de liquidateurs et dans l'ensemble de survivants à la catastrophe de Tchernobyl. La série, donc, d'un point de vue écriture, je la trouve superbe, mais aussi d'un point de vue mise en scène, elle est assez très réussie. Et surtout, un sujet comme Tchernobyl, qui est quand même un objet de fascination collective, ça peut être assez risqué et donner lieu à des séries un peu pathos, avec des moments très sensationnels. Et là, je trouve que c'est tout en sobriété. que parfois la souffrance elle se déroule hors cadre, ce que je trouve assez judicieux. C'est pas une série très joyeuse, ce qui est normal au vu de son sujet,
voilà,
mais disons qu'elle est relativement élégante et sobre, et c'est vraiment un plaisir à regarder malgré le sujet. Et c'est aussi dû, à mon sens, aux acteurs qui ont été choisis. Enfin, je pense notamment à Jared Harris qui joue Valérie Legasov, et j'ai l'impression que lui incarne la suite logique du rôle qu'il avait dans la série The Aurore, où il jouait Francis Crozier, et il se retrouvait donc à faire de la gestion de crise face à un mal qu'il dépasse, et là c'est exactement ce qui se passe également. Et vraiment, il est assez exceptionnel, et beaucoup d'autres personnages donc, qui sont charismatiques mais qu'on croit seulement au fil d'un épisode, donc je pense au chef des mineurs ou au type qui supervise l'exécution des animaux donc, pendant l'évacuation, et y a beaucoup de scènes en tout cas qui sont restées en moi, qui resteront longtemps en moi, je pense par exemple celle où on suit une petite grand-mère de 82 ans à qui un soldat donc, lui demande d'évacuer son village où elle a toujours grandi. Elle est là, non mais attends, enfin, j'ai vécu Staline, j'ai vécu la grande famine et tout. C'est pas genre face à un mal invisible, des radiations que je suis même pas capable de voir, que je vais me barrer, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Et voilà, enfin, surtout, donc là c'est un point sur lequel Daniel pourra peut-être plus m'éclairer parce que.
Voilà, je survis pas, j'ai pas survécu à
en tant qu'ambassadeur de la culture soviétique en France.
Ouais, c'est ça. J'ai remarqué que la série avait été pas mal louée pour donc sa précision quasimaniaque, son attachement, son désir d'authenticité. Et là-dessus, il y a un journaliste sportif russe qui s'appelle Slava Malamud. Possible que j'écorche son nom, qui lui donc a des souvenirs très vifs de la catastrophe de Tchernobyl et racontait que vraiment tous les détails des uniformes portés par les écoliers aux petits seaux que transportaient certains soviétiques pour sortir leurs déchets étaient vraiment vraiment tout à fait authentiques, quoi. Là, j'ai vraiment pas grand chose à redire sur la série. En fait, la seule critique, et encore c'est pas moi qui la formule, mais la seule critique que j'ai pu voir et qui moi finalement m'a pas tant touché, c'est le fait que la série soit en anglais et pas en russe. Mais bon, bah, pour des besoins d'audience, ça paraît tout à fait logique qu'ils aient fait ce choix, quoi.
Daniel, toi, tu aurais préféré une série en russe, j'imagine.
Non, pas forcément, tu sais.
L'action ukrainienne, c'est pas terrible.
Il y a un truc sur la cohérence linguistique d'une série ou d'un film, c'est-à-dire il faut faire des choix. C'est des choix qu'on fait au début. Et est-ce que tu fais la langue d'arrivée? Est-ce que tu fais la langue d'écriture du script, ce qui est là en l'occurrence l'anglais, ou est-ce que tu fais Papa Schultz, c'est-à-dire des gens qui parlent avec un accent,
faux accent.
Accent. Et il y a la deuxième version, la version alternative, qui est la version la plus raciste quand même. C'est celle de inventer carrément une langue, ce qui était le cas de Octobre Rouge, où personne parle vraiment russe et qui donne le truc le plus anti-russe que tu puisses imaginer. Mais c'était ça les films de cette époque. La série Tchernobyl fait le choix de tout faire en anglais et de partir, de faire ce qu'on appelle la confiance à ses comédiens, c'est-à-dire à l'intensité de ce que les acteurs peuvent procurer. Et c'est ce que j'appelle le choix Eastern Promises, où il y a Viggo Mortensen qui parle pas un mot de russe. Il te vitrifie du regard parce qu'il joue l'assassin russe, et Viggo Mortensen, quand il joue quelqu'un, il est dedans. Et là, c'est exactement ça. Les acteurs sont... En même temps, moi, pour être 100% franc, j'y suis allé un peu par reculons, mais quand j'ai vu qu'il y avait Stellan Skarsgård et qui fait partie de l'amicale des Suédois qui jouent que des Russes au cinéma, je me suis dit, ah putain, encore, on va avoir droit à encore des Stalingrad. Tu te souviens de Stalingrad, le fameux film où t'as Khrouchtchev qui « We need to get out Stalingrad of this shit house », tu vois, enfin, et moi j'en peux plus de ces trucs avec accent. Et donc Jared Harris, il est extraordinaire. Je suis complètement amoureux de cet acteur depuis Mad Men. Il était flamboyant, et c'est ça qui est important, c'est qu'ils savent mettre de l'intensité dans le jeu. Et c'est ça qui est important, c'est que on voit l'intensité dans son personnage, mais aussi dans les autres. Et c'est ça qui est intéressant dans Tchernobyl, à mon avis, c'est que il n'y a pas qu'un seul point de vue. Comme tu le faisais justement remarquer, Julie. Voice from Tchernobyl, qui est le bouquin dont s'inspire, c'est ce qu'on appelle une oral history, c'est-à-dire c'est vraiment elle est allée voir les gens pour qu'ils le racontent.
Ouais, c'est une collection de témoignages.
Et collection de témoignages qu'elle a romancé par son propre style. C'est vraiment un travail de journaliste. Elle a le prix Nobel, ce qui est rarissime pour une journaliste. Et pour un journaliste déjà, et pour une journaliste encore plus. Et du coup, la série adopte cette histoire de point de vue, c'est-à-dire qu'on voit passer du mineur, on va passer ensuite au politique, et c'est ça qui est assez génial. Enfin, génial de voir ça. C'est horrible de dire ça, mais c'est que tu vois l'incapacité du pouvoir politique devant quelque chose hors du commun, et de voir que tout d'un coup il y a un mec dans le système qui essaye de leur dire non, mais c'est vraiment grave ce qui arrive, et de voir ce qui est marrant, de voir Gorbatchev par exemple mis à mal par tout le Comintern, parce que d'habitude en Occident on le présente un peu comme le gentil qui a pété l'URSS, mais au fond c'est un mec qui s'est aussi fait bercer. C'est bizarre que ça prenne aussi un point de vue un peu soviétique, justement, de mettre Gorbatchev comme si c'était un peu un nullard qui s'est un peu laissé bercer. Et c'est ce qui arrive justement dans cette série. Donc moi, en fait, j'aime bien les points de vue. Alors après, on va en discuter après. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les répercussions que ça a sur la Russie. J'ai un peu regardé un peu les journaux russes pour voir quelles étaient leurs réactions par rapport à ça. Elles sont évidemment plus nuancées qu'en Occident. Oui. Ouais. Mais parce que c'est la facilité qu'a l'Occident de réécrire l'histoire, et c'est peut-être ce que je reprocherais, c'est que les personnages sont soit méga gentils, soit méga incapables, soit des méga connards. Il y a pas d'intermédiaire. Il y a juste les animaux qui ont la neutralité suisse, mais sinon il y a pas grand monde. Enfin, il y a soit ceux que tu veux sauver, soit vraiment il faut qu'ils restent dans le plomb dans lequel on les fond à la fin. Enfin, pas à la fin, mais durant la série. C'est pas une série que je recommanderais pour les gens qui pas traversent des mauvaises passes, quand même.
Oui.
C'est quand même d'une infinie tristesse. Et moi, pourquoi aussi j'y suis allé à reculons, c'est que j'avais peur de voir tous ces documentaires que j'ai vus quand j'étais gamin sur Tchernobyl, et ces villages avec des gens avec trois têtes et les déformations et tout, qui m'ont donné des cauchemars personnellement. Et il y a rien qui me terrifie plus que la réalité de l'horreur atomique, en fait, de ce que ça a eu comme répercussion sur l'être humain.
Il n'y a pas du tout cet aspect-là dans la série.
Non, ouais, il l'évite, c'est presque éludé, mais surtout parce que c'est les premiers jours. Et les premiers jours, soit c'est les gens, ils mouraient
directement de brûlure.
Soit les gens, sur quelques années, c'est les fameux cancers de la thyroïde qui apparaissent après. Donc, je suis un avis très positif. J'aimerais ajouter encore une dernière chose. Je vois que David brûle de rajouter encore quelque chose à la fission nucléaire de mon avis. C'est que le parti pris de réalisation est génial, parce que comme un camarade me l'a souligné, en fait l'usine Tchernobyl est traitée comme un monstre.
Oui.
Elle est visuellement, elle est filmée comme si ça s'agissait d'un kaiju Ega, en fait. Il y a des parallèles vraiment, vraiment délibérés avec, je trouve, Godzilla. Et toute la scénographie évidemment Godzilla qui est né lui-même de la radioactivité.
Oui, c'est ça.
Et la manière de le filmer et de le mettre en musique en particulier m'a beaucoup plu, parce que évidemment j'adore tout ce qui est Kaiju Ega, j'adore les films de monstres et j'adore la manière dont ils influencent un peu la société. Et là c'est vraiment un cas inqualifiable, un cas évident de l'influence du Kaiju Ega dans notre quotidien, dans la manière dont on perçoit l'horreur aujourd'hui. Et je trouve ça me fascine complètement. Et moi, je comprends pourquoi Tchernobyl, l'accident me fascinait quand j'étais petit, et je comprends pourquoi ça continue encore de me fasciner.
C'est vrai que c'est très intelligemment mis en scène, David.
Oui, c'est marrant. On parle de série, et je trouve que c'est une œuvre qui remet vraiment en question la notion de format. Donc, c'est une mini-série en cinq épisodes, d'ailleurs, enfin, au niveau de l'appareil critique, relève plus d'un très long film que d'une série, parce que le côté sériel est relativement limité juste par le fait qu'il y a peu d'épisodes. Mais
et qu'il y a potentiellement pas de saison 2.
Et qu'il n'y aura probablement pas de saison 2. Et en même temps, il y a un vrai intérêt, et ce qui fait que ce n'est pas simplement un long film découpé en 5 parties, qui fait que c'est totalement, ce format est totalement adapté au sujet qui est traité. Notamment parce que ça permet, avec chacun des 5 épisodes, de créer une dramaturgie qui est renouvelée à chaque fois et qui est différente. Et qui évite d'avoir la contrainte trop forte d'un arc narratif qui couvre l'ensemble de l'œuvre. Et je me dis que ce sujet-là, sur un film de 2 heures, voire de 3 heures, aurait été très compliqué à traiter et il y aurait eu des vrais problèmes de dramaturgie. Là, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, chaque épisode est traité comme une entité à part, relève presque d'un genre différent. Et effectivement, il y a sur les premiers épisodes des choses qui se rapprochent du film de Kaiju. Le dernier épisode est un film de procès. Il y a l'épisode dont parlait Julie tout à l'heure, avec où il faut aller tuer les animaux, qui ouvre une piste narrative différente. Et je trouve ça très intéressant. Pour le coup, j'ai pu voir Tchernobyl grâce à mon mois gratuit OCS que j'avais pris pour regarder Game of Thrones. Et du coup, alors actuellement, je suis abonné à l'ensemble des services possibles du monde. Ça me coûte pour le moment rien, mais ça va être cher si je finis pas les abonnements. Et en fait, tout ça pour me dire que c'est assez intéressant. On a évoqué dans divers nos ciné-clubs pas mal de questionnements sur où va le cinéma avec les plateformes, etc. Et en fait, l'ouverture des formats et pouvoir se dire que finalement le format de 2 heures pour la salle, ça correspondait à une époque et à une industrie réglée, rodée. Un des gros avantages des plateformes, c'est finalement d'éclater complètement la question du format et de pouvoir se dire, en fait, le format qui est intéressant, c'est celui qui correspond au sujet que je veux traiter. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre, de voir comment... sur plein de sujets, on va avoir parfois des mini-séries de 5-10 épisodes, parfois des épisodes courts, parfois des épisodes longs. Et c'est très intéressant sur la manière dont ça redéfinit complètement la manière d'écrire dans l'audiovisuel. Pour Tchernobyl en particulier, alors je rejoins pas mal ce qu'on dit mes camarades, notamment je trouve qu'une des grandes forces, c'est le casting qui est exceptionnel jusque dans les tout petits seconds rôles, où ils trouvent à la fois des gueules, des acteurs et des actrices vraiment très charismatiques. Enfin, il y a l'astuce, je trouve, dans le panorama que faisait Daniel, des manières de contourner la question de la langue. Là, l'astuce qui est trouvée, c'est de prendre essentiellement des acteurs européens, ce qui, oui, d'un point de vue américain, donne un petit côté exotique qui fonctionne bien et qui se fond bien dans le décor de Tchernobyl. La deuxième très grande réussite, c'est que on se fout pas de notre gueule visuellement, on y croit à fond et il y a des plans qui payent vraiment, des grands plans larges sur l'usine avec les personnages qui s'activent autour, c'est assez exceptionnel. Il y a des moments beaucoup plus claustrophobes. Enfin, tout est extrêmement réussi en termes de production. Ça m'a pas mal rappelé un film qu'on a évoqué dans nos ciné il y a quelques temps, c'est le film Kursk sur ce qui reposait sur un procédé narratif un peu similaire du discours édifiant sur la catastrophe et l'État qui préfère ne rien faire que de mourir de honte.
La défaillance de l'État, c'est clairement.
Voilà, même si dans le cas de Kursk, c'était sur un cas qui survenait 15 ans plus tard. Donc, oui, c'est le côté encore un peu plus déprimant, en tout cas d'un point de vue extérieur, sur ce qui s'est passé après la chute de l'ex-URSS. Et ensuite, moi, ça m'intéresse pas mal, toutes les discussions qu'il y a, et aussi le fait que la série a été assez mal reçue en Russie et, oui, qu'il y a un projet de faire
une série russe.
Voilà. Ça sur le sujet, moi, ce que je trouve intéressant, et en voyant la série, c'est que je trouve pas du tout que ça parle simplement de l'ex-URSS en fait, et on peut très bien regarder toute la série et la manière dont se comportent les politiques en pensant à Trump et à son rapport avec l'effet de serre et le réchauffement climatique. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être mises en perspective, qui font que la série est très actuelle et voilà, et tout est plutôt réussi. Et moi, si j'ai une réserve, c'est justement sur ce dernier épisode, cet épisode de procès, qui a l'avantage de d'apporter beaucoup d'éléments factuels qui permettent de comprendre en fait ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est très technique et très compliqué. Et il y a une belle idée de mise en scène avec carrément un tableau et des gommettes de couleurs pour bien nous expliquer tout ce qui se passe. Et c'est très compliqué. Et cet aspect-là est vraiment réussi. Non, mais c'est important. Et en même temps, le sujet est tellement lourd et massif, nous a tellement été montré finalement dans les épisodes précédents comme quelque chose de réellement catastrophique et qui aurait pu être largement pire. Donc à un épisode, on comprend vite fait que les personnages de la série n'avaient pas mieux géré le truc, ça aurait pu être 50 millions de morts et 2-3 pays complètement rasés à vie, quoi. Les enjeux sont tellement imposants cette fin qui repose sur les enjeux de dire qui est coupable et finalement d'arriver à dire que effectivement il y a des dysfonctionnements dans l'organisation politique de l'URSS qui ont amené ça, on a compris. Enfin, je veux dire, c'est assez faible en fait en termes de retournement narratif. Donc à ce niveau-là, on reste un petit peu sur notre fin alors que la série a connu son climax un ou deux épisodes avant.
Julie ?
Oui, je suis assez d'accord avec toi sur ce dernier épisode un peu explicatif, avec cette fin, que sont-ils devenus dans la vraie vie. Mais je trouve ça, moi en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant justement dans cette série, et tu parlais du fait que la Russie donc s'apprêtait à sortir sa propre version, c'est que justement, en fait, cette série, j'ai pas envie de me cantonner à cette vision des faits, elle m'a vraiment donné envie de me documenter sur Tchernobyl, et du coup je regarderai avec...
regarder tous les documentaires que Daniel a
traumatisé, Daniel. Genre, ça va être une semaine sympa.
Les gens à trois têtes.
En passant tous les sangliers à trois têtes, etc. J'aimerais bien en tout cas lire plus de témoignages de liquidateurs, parce que je trouve cette histoire complètement fascinante, et ça, je trouvais que c'était très bien montré, en fait, ces moments en fait, où des types jouent leur vie sur 90 secondes, comme ça arrive dans l'épisode 4, et leur rapport à tout ça, parce qu'au final, ils sont, on a du mal à se rendre compte. Enfin, on leur dit qu'on les envoie à la mort, et au final, c'est une inconnue totale, quoi. La plupart d'entre eux, enfin, certains ont survécu. Genre, je pense aux trois plongeurs, en fait, dont seulement un, je crois que seulement un sur trois est mort. Mais en tout cas, j'ai envie de voir la version russe, le petit bémol que j'ai, donc par rapport à cette version que j'ai pas encore vue, c'est juste qu'apparemment, ce qui est reproché, entre autres, c'est que les actes héroïques des liquidateurs seraient pas assez valorisés, alors que moi je trouvais justement
qu'il
était énormément. Mais après, ce que tu disais, c'est très vrai, sur le fait que l'Occident, et particulièrement les Américains, ont souvent bon dos quand il s'agit de critiquer le bloc adverse, et donc j'aimerais vraiment pouvoir en voir plus, et je trouve que c'est aussi un des grands mérites de cette série, qu'elle pousse à ce qu'on s'intéresse plus au sujet qu'elle traite.
La relecture politique, c'est de toutes ces œuvres qui opposent les deux blocs, c'est quand même une espèce de grande tradition. Il faut voir que depuis les années 70, même 80, 90, il y a une tradition en Russie, c'est de toujours faire le pendant d'un film. C'est-à-dire, je me souviens que j'étais gamin et je dis « Hey, j'ai vu Octobre Rouge », je disais ça à mes amis qui étaient des anciens soviétiques qui habitaient en France. Et ils disaient « Ouais, mais... » eux patriotes, ils me disaient, mais tu sais qu'il y a un octobre russe, mais russe, où c'est les Russes qui gagnent à la fin. Et donc, en fait, il y a plein d'équivalents de tous les films.
Novembre rouge.
Il y a de tous les... tous les trucs un peu débiles qu'on a eu. Il y a des Rocky 4 petites perles cachées quelque part dans les dans les VHS russes. Et du coup, il y a eu aussi évidemment la Stalingrad exploitation, c'est-à-dire tous les films liés à Stalingrad. Et il faut les voir, hein, ces films ultra patriotes avec des tanks qui font des drifts sur la longueur de Stalingrad. C'est absolument improbable. J'en ai vu un il y a pas si longtemps. Donc, en fait, il y aura forcément des Tchernobyl documentaires, plutôt docu-fiction, comme ici, puisqu'en fait, il y a des passages de fiction. En fait, évidemment, on loue la qualité de la reproduction, c'est-à-dire scénique, c'est-à-dire les props sont extraordinaires, les costumes sont super, les tableaux noirs. Enfin, vraiment, t'as l'impression d'y être. Moi, pour mes petits souvenirs du RSS, c'est vraiment, t'as l'impression de voir les props. J'ai déjà vu des Russes âgés qui retrouvent des vieux trucs d'Union soviétique, qui se mettaient à pleurer parce que c'est des choses que, en plus d'être bien rendu ici, coûtaient très très cher en fait. Oui. C'est pour ça qu'il y a un côté très dénué dans la mise en scène, dans tous ces props, ils sont assez rares et c'est ça qui fait en fait leur valeur à l'écran. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que il y aura forcément donc des Tchernobyl version russe, mais ils seront, je vous le dis tout de suite, ça sera moins bien. ça sera moins bien parce que déjà là on a une œuvre de qualité, mais surtout, bon, ils auront le biais russe et je vois tout de suite où ça va aller et on devine enfin que évidemment ça sera le pendant propagande inversé. Le fait est que c'est le simple fait que Tchernobyl la série existe, et bah c'est bien parce que ça a permis à toute cette espèce de œuvre réactive d'exister en fait. Le simple fait que Tchernobyl provoque une autre réaction, c'est-à-dire le fait de ah attendez, c'est pas uniquement cette version là, on a le droit de proposer la nôtre, et je trouve ça même assez louable en fait de faire une des œuvres de fiction quand on n'est pas concerné à proprement parler par un incident, et on voit ça par exemple même quand Clint Eastwood il fait les soldats américains dans le TGV, en fait finalement c'est pas idiot comme démarche en fait. Ça peut poser problème à plein de gens, mais c'est pas idiot. Donc vraiment Tchernobyl est vraiment à plein d'égards, c'est une vraie réussite. Le seul truc c'est que ouais, presque j'aurais envie d'avoir une suite quelques années plus tard en fait. J'aimerais même au-delà du drame de voir la chute de l'Union soviétique reconstruite comme ça. Enfin, je voudrais voir une grande fresque historique un peu comme Racine, qui était la grande fresque historique des années 4 de mon enfance, en tout cas des années 80. Je voudrais un truc comme ça sur l'Union soviétique. Je crois que même HBO, il n'y a pas les moyens pour ça.
Ils ne sont pas prêts.
Il y a l'aspect, le rapport entre le réel et la fiction est un point intéressant. Et effectivement, le créateur de la série a mis à disposition pas mal de bibliographies et d'éléments pour aller creuser le truc. Et c'est quelque chose, quand on regarde la série, qui pose question, y compris dans les moments qui semblent les plus romancés. Notamment, je pense à un personnage féminin qui est la femme d'un pompier qui, m'ennuyait un petit peu pendant le visionnage. Je trouvais qu'elle avait des comportements un peu stupides et que on s'attardait trop en fait sur ce personnage qui faisait pas trop avancer l'histoire et voilà, et en fait on apprend à la fin que le personnage n'est pas du tout quelque chose qui a été rajouté pour véhiculer quelque chose de particulier, mais que c'est un personnage qui a existé et que voilà, ça fait partie des histoires qu'il a choisi de raconter. Et il y a pas mal de petits éléments comme ça qui sont parfois soit des fausses pistes pas complètement traitées jusqu'au bout, soit au contraire des éléments qui permettent d'apporter beaucoup de chair à l'ensemble et de détails. Enfin, je trouve qu'il y a notamment le personnage des mineurs qui viennent creuser le tunnel qui va permettre de faire je sais plus quoi dans l'usine. C'est tous ces personnages, la manière dont ils sont introduits dans la série, la manière dont ils se comportent ensuite, c'est hyper intéressant. Et il y a aussi un aspect moi, qui m'a plu, j'ai beaucoup aimé la série The Americans, qui porte sur des espions russes qui se faisaient passer pour une famille infiltrée aux États-Unis. Et il y a tout ce qui est un peu raconté autour du KGB, alors qu'il y a traité vraiment en filigrane sur l'ensemble du truc, mais on voit qu'ils rôdent et de la même manière ils sont ça rejoint un peu les techniques qu'on voit dans The Americans. Tu vois un couple passer au fond d'un parc alors que normalement tout le monde a été évacué depuis 2 semaines et tu dis ah oui bah si ils sont là depuis le début, et si on les voit c'est parce qu'ils ont envie qu'on sache qu'ils sont là. Oui. Et donc ce genre de petits détails je trouve sont assez bien amenés. Mais il y a vraiment ce truc qui, et je rejoins ce que disait Julie tout à l'heure, c'est vraiment une série qui donne envie de se plonger dans Wikipédia et dans toute la bibliographie disponible, parce que on a envie d'en savoir plus. Personnellement, moi évidemment j'avais entendu parler notamment dans mon enfance de l'histoire de Tchernobyl. C'est un truc même sur lequel on plaisantait plus ou moins avec cette histoire de nuages qui s'était arrêté
aux frontières françaises parce qu'il n'avait pas ses papiers.
Et malgré tout, j'avais jamais trop fait l'effort de vraiment creuser le sujet. Et là, c'est ce qui est très intéressant avec cette série, c'est qu'à la fois elle te donne pas mal d'éléments, et puis en même temps, elle te donne envie d'en savoir plus. Et c'est vraiment pas loin d'être sa mission, quoi.
Il faut revoir les archives notamment du professeur. Je crois que c'était le professeur Pellerin. Qui était le professeur français qui allait à la télé pour expliquer que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait aux frontières et aux montagnes. C'est assez génial.
Comme quoi la propagande, elle n'était pas d'un seul côté de la frontière.
Je crois que les vidéos sont sur la chaîne YouTube de l'INA notamment. Il faut vraiment aller les voir. C'est assez édifiant. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations, films ou séries. C'est comme vous voulez, les amis, car vous savez, vous êtes parfaitement libre. Julie.
Et eh ben en recommandation, en fait, Daniel m'a donné envie de parler de La Poursuite d'Octobre Rouge.
Ah.
Mais alors, parce que d'un point de vue, attention, moi je trouve que c'est un très très bon film. Qu'est-ce que tu veux de plus que de l'espionnage, des sous-marins, Sean Connery et Alec Baldwin? Mais après, c'est parce que moi, elle me semblait intéressante d'un point de vue non russophone, au moment justement où la transition de l'anglais au russe s'opère. Parce que ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'au moment donc, de décider s'il fallait donc, faire le film en russe ou en anglais, ou en anglais avec un accent coupé à la serpette, ou visiblement un faux anglais, faux russe, une espèce de langue hybride. John Milius, donc, qui a bossé sur le scénario, s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire parler en russe, et la transition va se faire au début du film, donc pendant une scène. Mais moi, ce que je trouve, cette scène qui m'a vraiment marquée, c'est le fait que cette transition, elle se passe au cours d'une phrase. Donc on a un plan sur Peter First qui dit une phrase, il la commence en russe, et elle se termine en anglais, mais en fait la transition se fait sur le mot Armageddon, donc il se dit de la même manière dans les deux langues. Et voilà. Mais je te laisse me dire quoi en penser, Daniel,
non, je suis pas là pour.
Certainement pas.
Pour casser du sucre sur le dos d'Octobre Rouge, un des meilleurs films racistes de sa génération.
Tu arrêtes, tu ne dis pas du mal de Mac-T. D'ailleurs, tiens, tu nous recommandes quoi, Daniel?
Bah écoute, je me suis.
Comme ça... film de propagande soviétique.
Ah bah écoute, ça va être un film de propagande à sa manière.
Très bien.
Ça me brûlait les lèvres d'en parler pendant toute l'émission, et je me suis dit je vais essayer de le garder
pour les recos.
Et c'est un film qui a été très peu diffusé en France. Il a été diffusé au PIF, le festival du film fantastique à Paris. Et il a été, je crois, à la Cinémathèque et aussi à la Maison de la Culture du Japon. Tu vois où je veux en venir. Je veux parler du meilleur film de kaiju de ces dernières années, loin devant King of Machin. C'est Shin Godzilla.
Shin Godzilla.
Donc Shin Godzilla, qui est réalisé par Hideaki Anno et son camarade Shinji Higuchi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le même histoire que Tchernobyl. En fait, il y a un danger nucléaire. Et ce que va faire ce film pendant 2 heures, c'est souligner l'ineptitude de toute la classe politique et dirigeante de se mettre d'accord sur des trucs. Et en fait, les gens, quand sont allés voir Shin Godzilla, ils pensaient qu'ils allaient voir le kaiju pendant 2 heures. Mmh. Non. En fait, tu vois assez peu Godzilla, mais par contre, tu vois des scènes de réunion avec des sigles qui sont affichés. Il y a un vrai travail sur la typo. C'est rare de voir des grands films avec un vrai travail sur la typo. Shin Godzilla en fait partie. Il y a des typos dans tous les sens. Il y a des moments où tu es obligé de faire pause écran pour essayer de lire tous les kanji. C'était, je l'ai vu en salle à l'époque à sa sortie au Japon. C'était délirant. Je me suis pris 2 heures de admin porn dans la gueule. c'est vraiment fabuleux. Il y a un petit souffle nationalo-parodique en fait, puisque en fait c'est ça qui est rigolo, c'est que bah, justement le Japon finit par vaincre Godzilla, non sans l'aide des Français. Donc je tiens quand même à souligner à l'époque.
Cocorico.
Sans doute Sarkozy peut-être. Mais en tout cas, c'est un film génial parce que on voit complètement 30 minutes de réunion pour savoir comment est-ce qu'on va appeler ce danger. Et il y a une scène où ils bougent des photocopieuses et qui est ma scène préférée de tout le film. Genre, ils sont en train de genre, waouh, on va bouger les photocopes. C'est extraordinaire parce que c'est rare de nous montrer à quel point le monde politique peut-être nul, et Shin Godzilla le fait de manière assez brillante. Donc il y a 15 minutes de kaiju qui sont vraiment super, et le reste du temps c'est des gens qui suent dans des costards cravates. c'est la fin du siècle japonais. Il y a le machisme global, mais il y a aussi la meuf badass qui arrive avec un phrasé américain. Elle parle très 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 mal anglais, donc je pense que c'est une référence à Octobre Rouge et ces gens qui parlent mal russe. Donc voilà, Shin Godzilla. Il est pas disponible en France, il est disponible en DVD si vous le voulez, en version américaine, parce que eux ils ont eu le bon goût de le sortir. Je sais pas si on peut l'avoir par des manières plus orthodoxes en France, mais en tout cas
je dois avoir un abonnement qui
couvre cette partie du
franchement
catalogue.
Regardez-le, c'est quand même réalisé par Hideaki Anno, qui est quand même le réalisateur d'Evangelion, l'une des séries les plus marquantes de ces 30 dernières années. Voilà,
David.
Moi, je vais recommander un film russe, un film qui va vous permettre de rester dans l'expérience ou de prolonger l'expérience plutôt, même si le film a été réalisé 7-8 ans avant l'accident de Tchernobyl. C'est Stalker d'Andrei Tarkovsky. C'est un film qui vraiment
là aussi on évite les moments de
c'est pas très fun,
les petits passages à vide, bon voilà, c'est pas forcément le
si
film.
Vous êtes en dépression, vous faites pas
c'est pas le film du dimanche après
le double programme
quand il pleut, quoi, voilà.
c'est l'histoire du film qui est pas facile à résumer, mais le stalker en fait c'est un guide qui a la faculté d'emmener les gens dans une zone interdite qui ressemble énormément à ce qu'on peut s'imaginer de ce qu'est encore aujourd'hui la zone interdite de Tchernobyl. Donc c'est une sorte de zone post-apocalyptique très très bizarre, et il emmène un physicien et un écrivain dans cette zone, parce qu'à l'intérieur de la zone il y a la chambre dans laquelle on peut réaliser ses désirs en fait. Enfin, je résume très mal le propos, mais c'est à peu près l'idée. Et en fait on est dans une sorte d'errance métaphysique qui est visuellement complètement hallucinante. Enfin, le film est vraiment une expérience, et voilà, faut vraiment être au calme, se poser devant et réussir à bien se concentrer, parce que voilà, c'est un film qui peut complètement vous happer. Et ce que je trouve vraiment vraiment dingue là-dedans, c'est que c'est justement avec la perspective de Tchernobyl, c'est cet aspect un peu prophétique, quoi, de se dire quand tu vois le film sans trop te poser la question de la date, tu peux dire ah ouais, tiens, il avait fait Tarkovsky un film sur ce qui s'est passé après ça. Alors évidemment il a dû être en partie inspiré par ce qui n'était pas des accidents pour le coup, mais les bombardements
d'Hiroshima
et Nagasaki, et du coup toute la psychose autour du nucléaire pendant la guerre froide, mais c'est aussi un grand film sur la foi, sur beaucoup de questions et de questionnements métaphysiques, sur la manière dont se retournent aussi les préjugés des deux personnages, celui qui est très rationnel et celui qui est plus poétique, on va dire. Voilà, donc c'est un film vraiment à part, hallucinant. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez certainement jamais rien vu de tel, donc je vous le recommande très chaudement.
Très bien, et notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Jules, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to.
courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.